Au micro, Idrissa Seloudia, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, bonjour. Au Mali, les militaires ont libéré le président de la transition Bandao et son premier ministre Mokhtar Ouane, tout en reprenant les commandes entre leurs mains, loin de l'exigence internationale d'une reprise immédiate d'une transition civile dirigée par des civils. Le colonel Assimi Goïta assure, jusqu'à nouvel ordre, la charge de président de la transition, a dit hier à l'AFP un haut responsable militaire ayant requis l'anonymat. En seconde partie de cette édition, des réactions de citoyens maliens. En Côte d'Ivoire, trois accusés au procès de l'ex-premier ministre Guillaume Soro en exil et d'une vingtaine de ses partisans pour un complot présumé contre le pouvoir ont reconnu que des armes étaient entreposées au siège de son parti. Lors de la troisième journée d'audience hier à Abidjan, le collectif d'avocats qui défend M. Soro a dénoncé un simulacre de procès et un règlement de compte politique. Le procès doit reprendre le 2 juin. En République démocratique du Congo, Goma, au nord Kivu, était en grande partie vidée de ses habitants ce matin, au lendemain de l'évacuation préventive ordonnée par les autorités par crainte d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. Selon un correspondant de l'AFP, contrairement à ces quatre derniers jours, la nuit a été relativement calme au pied du volcan. Les tremblements de terre ont baissé en nombre et en intensité. Elie Isango s'est entretenu avec le gouverneur militaire du Nord Kivu hier, le général Constant Nima. Ce sera en seconde partie de cette édition. Au Rwanda voisin, le président français Emmanuel Macron a reconnu avec humilité et respect hier à Kigali les responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Dans un discours très attendu et empreint de solennité au mémorial du génocide où reposent les restes de plus de 250 000 victimes à Kigali, il a dit sans présenter d'excuses, espérer que ceux qui ont traversé la nuit de ce génocide puissent faire le don de nous pardonner de ne pas avoir su empêcher le massacre de centaines de milliers de personnes, tout en soulignant que la France n'avait pas été complice des génocidaires. Son homologue Paul Kagame a salué son discours, disant que les mots de M. Macron étaient plus puissants que des excuses, car c'est la vérité historique. Les deux pays ont promis, selon M. Macron, de renouer des relations puissantes et irréversibles. Un nouveau centre culturel français a été inauguré hier à Kigali. En seconde partie de cette édition, des réactions de citoyens rwandais. Pour sa part, l'Allemagne a pour la première fois reconnu ce vendredi avoir commis un génocide contre les populations des Herero et Nama en Namibie pendant l'ère coloniale et va verser au pays plus d'un milliard d'euros d'aide au développement. Le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas a déclaré dans un communiqué « à la lumière de la responsabilité historique et morale de l'Allemagne ». Nous allons demander pardon à la Namibie et aux descendants des victimes pour les atrocités commises. Les massacres de dizaines de milliers d'Herero et de Nama par des colons allemands entre 1904 et 1908 sont considérés par de nombreux historiens comme le premier génocide du XXe siècle. Concernant encore M. Macron, il visite aujourd'hui l'Afrique du Sud pour discuter de la pandémie de COVID-19, notamment de la production de vaccins sur le continent. Selon l'OMS, l'Afrique a besoin d'au moins 20 millions de doses de vaccins AstraZeneca dans les 6 prochaines semaines pour fournir à temps une deuxième dose à toutes les personnes qui en ont reçu une première. 200 millions de doses additionnelles de n'importe quel vaccin sont en outre nécessaires pour que le continent puisse vacciner 10% de sa population d'ici 2021, a précisé hier l'organisation, c'est-à-dire l'OMS. Une commission gambienne chargée de faire la lumière sur les crimes sous Yahya Jammeh bouclait en cette fin de semaine 2 années de et demi de témoignages souvent accablants jugés cruciaux pour d'éventuelles poursuites contre l'ex-président en exil depuis 2017. Chrétiens et musulmans et juifs ont posé hier à Berlin la première pierre d'un lieu de culte commun, un projet présenté comme unique au la suite de nos informations. En Somalie, le gouvernement a annoncé hier la tenue d'ici 60 jours des élections nationales dont le report avait provoqué l'une des pires crises politiques de ces dernières années dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Marius Muhunga.
Le Forum consultatif national s'est mis d'accord sur le fait que les élections se tiendront d'ici 60 jours, a déclaré dans un communiqué Abdirahman Youssouf, ministre adjoint de l'information, en ajoutant que les dates exactes seraient déterminées par le comité chargé de l'organisation des élections. Mi-avril, la prolongation pour 2 ans du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, qui a expiré le 8 février, avait mené à des violents affrontements à Mogadiscio. Début mai, dans un geste d'apaisement, Farmajo a finalement chargé le premier ministre, Mohamed Hussein Roblé, d'organiser les élections dans un meilleur délai. Ce scrutin va conserver le complexe système électoral indirect utilisé par le passé, où les délégués spéciaux investis par une myriade des clans et de sous-clans choisissent les parlementaires qui eux-mêmes désignent le président. Les Nations Unies ont par le passé estimé que l'adoption d'un système direct, une personne, un vote, est essentielle pour la démocratisation de la Somalie après des décennies de chaos et d'instabilité. Mais le pays, rongé par les luttes politiques intestines, par des problèmes logistiques et par l'insurrection de la milice islamique Chebab, ne parvient pas à atteindre cet objectif.
Le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés a appelé hier les Européens à mettre un terme aux refoulements illégaux de migrants aux frontières extérieures de l'Union européenne, mais également à éviter les discours toxiques sur la migration. Claire Morin-Gibourg.
Filippo Grandi a aussi exhorté les eurodéputés à adopter la réforme de la politique migratoire et de l'asile proposée par la Commission européenne en septembre, qui suscite de fortes dissensions entre les 27. Ce nouveau pacte sur la migration et l'asile prévoit des mécanismes complexes de solidarité entre États membres en cas d'afflux de migrants et de sauvetage en mer, des procédures accélérées d'examen des demandes d'asile et met l'accent sur les retours des personnes en situation irrégulière. Pour Filippo Grandi, c'est la meilleure chance d'aller de l'avant malgré les divergences des 27. En attendant, certaines actions sapent la réputation de l'Europe, a déploré le responsable italien, citant les refoulements de migrants qui, en mer ou sur terre, mettent des vies en danger. Le droit d'asile est un droit fondamental, a-t-il souligné. Filippo Grandi a aussi appelé les Européens à éviter les discours toxiques d'invasion, de submersion, qui sont non seulement factuellement faux, mais aussi contre-productifs. Au Liban, une personne sur quatre est un réfugié, a-t-il rappelé, et prenant comme exemple le Soudan, l'Ouganda ou la RDC, qui ont accueilli un afflux des pays voisins au pic de la pandémie. L'Europe peut faire de même, a-t-il souligné.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU lance une enquête internationale sur les atteintes aux droits humains présumées commises dans les territoires palestiniens occupés et en Israël depuis avril. L'enquête couvre aussi les causes profondes des tensions. Le point avec Abdourahman Dia.
Une résolution adoptée avec 24 voix pour, 9 contre et 14 abstentions lance une commission d'enquête internationale indépendante et permanente lors d'une réunion du Conseil. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a soutenu que les récentes frappes israéliennes sur Gaza peuvent constituer des crimes de guerre s'il s'avère que les civils ont été touchés sans distinction. Elle a indiqué ne pas avoir vu de preuves de la présence de groupes armés ou d'actions militaires dans des bâtiments visés par Israël à Gaza. Madame Bachelet a également souligné que les tirs de roquettes du mouvement islamiste palestinien Hamas ne font pas de distinction entre les objets militaires et civils et leur utilisation constitue donc une violation manifeste du droit humanitaire international. La réunion qui portait sur les atteintes aux droits humains dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est et en Israël, était organisée à la demande du Pakistan en tant que coordinateur de l'Organisation de la coopération islamique et des autorités palestiniennes.
La Minute Éco, John Linden.
En RDC, la société Ivano Mines annonce le lancement de ses activités d'exploitation minière pour août 2021 en collaboration avec la GKMine dans le cadre du projet Kamwa-Kakula dans lequel plus de 2 milliards de dollars ont été investis. Le Nigeria a signé cette semaine un accord de partage et de production pour 20 ans avec les principales compagnies pétrolières après 2 ans de bras de fer, ouvrant la voie à des investissements à hauteur de 10 milliards de dollars. Shell, ExxonMobil, Total, Eni et la NNPC, partenaires de la licence d'exploitation OML 118, qui abrite le champ offshore Bonga. Fin novembre, le Nigeria avait adopté une nouvelle législation pour imposer un meilleur partage des ressources avec les grands acteurs du secteur. Le FMI annonce avoir donné son accord de principe pour débloquer la dernière tranche d'aide de 1,6 milliard de dollars en faveur de l'Égypte dans le cadre d'un plan annuel. Le décaissement doit au préalable être soumis à l'approbation du conseil d'administration. Fin juin 2020, le FMI avait accordé un plan d'aide sur 12 mois d'un montant total de 5,2 milliards de dollars avec le décaissement immédiat de 2 milliards pour faire face à l'impact de la pandémie de coronavirus.
Merci John. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous, on connaît les affiches complètes des deux demi-finales de la Basketball Africa League qui se disputent à Kigali au Rwanda. Les Patriotes du Rwanda, justement hôtes du tournoi, continuent de faire sensation dans cette balle. Ils ont arraché de justesse hier leur ticket pour les demi-finales en venant à bout des Mozambicains de Ferroviaro de Maputo de justesse 73 à 71. Dans ce dernier carré, les Rwandais feront face aux Tunisiens de l'US Monastir qui ont pulvérisé un peu plus tôt les Sénégalais de la S-Douane 86 à 62. En 4 matchs dans le tournoi, les Sénégalais totalisent une seule victoire, mais leur coach reste fier de son équipe.
Nous avons joué un match très riche en enseignement. Mon équipe, vraiment, il s'est battu avec les armes qu'elle avait jusqu'à finalement arriver en quart de finale. Et durant ce match, la Tunisie avait beaucoup plus de ressources dans tous les comportements du jeu. Le plan tactique, on voyait nettement la différence. On les a inquiétés un peu, mais vous savez, un match de basket, ça se joue sur 40 minutes. À un moment donné, nous n'avons plus de ressources. Franchement, je suis très fier de mon équipe. Ils viennent de vivre une expérience inégalable sur le plan de la cohésion affective et du jeu. Je pense que cela va renforcer notre motivation, nous pousser à persévérer dans les années à venir.
Pabi Gueye, coach de l'AS Douane du Sénégal. L'autre demi-finale, on le rappelle, opposera les Égyptiens du Zamalek aux Angolais de Petro de Luanda. En quart de finale mercredi, le Zamalek s'est largement imposé devant les Camerounais de FAP 82 à 53. Tandis que dans un match plus serré, les Angolais de Petro de Luanda ont eu le dernier mot face aux Marocains de l'AS Salé battus 79 à 72. Les demi-finales se joueront ce samedi 29 mai et la finale le dimanche 30 mai. Comme d'habitude, vous pouvez tout suivre sur la balle en écoutant les matchs en direct sur les radios partenaires de la VOA et bien sûr sur voafrique.com. Football, le jury disciplinaire de la CAF déboute la RDC dans l'affaire de la double identité du joueur Gaylor Nkanga qui évolue avec le Gabon de Kinshasa. La correspondance de Valdo Simon Yamba.
Plainte rejetée purement et simplement par les jurys disciplinaires de la CAF, la RDC n'a pas eu gain de cause dans l'affaire qu'il opposait au Gabon concernant la dénonciation de la double identité du Gabonais Gaylor Nkanga, dit Kiaku Kiaku. Pour la RDC, la qualification à la CAN Cameroun 2021 reste bel et bien gabonaise. Après plus d'un report pour insuffisance de preuves, à en croire les jurys disciplinaires de la CAF, la Fédération Congolaise des Football Association et la FEGAFOOT ont finalement été en confrontation par visioconférence et c'est à l'issue de celle-ci que la RDC a été notifiée du rejet de sa plainte. Le jury disciplinaire de la CAF a motivé sa décision par le fait que c'est depuis 2008 que le joueur est enregistré dans le système CMS de la CAF avec la nationalité gabonaise et a pris part à toutes les compétitions de la CAF en club, tout comme avec la sélection nationale gabonaise. Une décision qui n'enchante pas les Congolais puisque estime-t-il la nationalité gabonaise d'Nkanga n'est pas authentique, ce qui peut sans le doute conduire la FECOFA à aller en appel au niveau du TAS puisque l'option est reprise dans la correspondance lui adressée par les jurys disciplinaires de la CAF. Kinshasa, Valdo Simon Yamba, VOA Afrique.
Merci Valdo.
Merci Yacouba. Le monde. monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le Rwanda, où le président français Emmanuel Macron a espéré hier le pardon pour les erreurs de la France lors du génocide des Tutsis en 1994. Sans présenter d'excuses, M. Macron a reconnu les responsabilités de la France dans le génocide au Rwanda et dit espérer que les Rwandais puissent un jour pardonner aux autorités françaises de ne pas avoir su empêcher le massacre de centaines de milliers de personnes. Dans un discours très attendu prononcé au mémorial du génocide à Kigali, le président français s'est efforcé de tourner la page d'une relation douloureuse entre les deux pays. Quelques réactions recueillies sur place.
Ce qui est bon aussi, c'est qu'il a reconnu le rôle de la France diplomatiquement, mais il l'a fait quand même. Il l'a fait, c'est pas comme avant. On se souvient des Français qui allaient sur les barrières, qui travaillaient avec les ex-FA et qui les aidaient à distinguer les Tutsis et les Hutus. Quand même, ça, c'est très, on ne peut pas oublier ça facilement. Il faut être clair, ils ont participé, ils ont aidé. C'était le moment de dire pardon, clairement, sans passer à gauche, à droite. Ça ne peut pas finir. Il y a beaucoup de choses qui me rappellent l'histoire.
C'est un discours plein d'humanité. Donc j'ai aimé le ton qu'il a utilisé et les mots. Et il a bien choisi les mots qu'il a utilisés. Ce sont des mots touchants. Même si il n'y a pas eu le mot pardon, mais quand même, il a fait un grand pas.
Comme l'enfant des parents qui ont tous survécu au génocide, je pense que c'est un pas qui soulage nos parents, qui soulage le pays.
Très connu comme historique, oui, parce que ça va donc être souligné entre le Rwanda et la France, entre même au sein de la communauté internationale, comme je le disais tout à l'heure. Donc pour les Rwandais, je crois que ça sera de l'histoire. Même pour les Français aussi, ça sera historique.
Retour également sur le Mali, où les militaires ont libéré le président de la transition Bandao et son premier ministre Mokhtar Wane, tout en reprenant les commandes entre leurs mains. Le colonel Assimi Goïta, instigateur de ce qui s'apparente à un second putsch en 9 mois, assure jusqu'à nouvel ordre la charge de président de la transition, a dit hier à l'AFP un haut responsable militaire ayant requis l'anonymat. Quelques réactions recueillies sur place.
Le pays va mal, nous sommes fatigués. Personne n'est capable de diriger le pays. Nous prions Dieu de le stabiliser. Que Dieu nous donne un président qui aime ce pays, qui nous aime. Nous aimerions que nos enfants aillent à l'école. Parce que nos enfants ne vont pas à l'école. Il n'y a pas de clients, le marché tourne au ralenti, les femmes n'aiment pas ça. Elles veulent que leurs enfants aillent à l'école et réussissent. Cela apporte la quiétude aux parents.
Je n'ai pas de moyens, il n'y a pas de travail, il n'y a rien avec le Mali. Mali est très fatigué aujourd'hui. Même quand l'argent est venu à cause de voir donner, à cause des Maliens, au donné du Mali, on n'est pas voir. On n'a rien. Si ce n'est pas la Dieu. Il n'y a pas de président. Il n'y a rien. Même quand tu es à l'école, quand tu peux te signer à l'école, tu as un diplôme. Il n'y a pas de travail.
Franchement, la situation qui prévaut au Mali présentement, il faut dire que c'est une situation embarrassante. Et nous, citoyens maliens, nous souhaitons que les acteurs politiques fasse l'essentiel pour que nous sortions de cette situation-là. Nous sommes fatigués de cette crise. Et nous, ce qui nous préoccupe, c'est notre gagne-pain et le développement de ce pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, une bonne partie de la ville de Goma et de ses environs a été évacuée hier du fait des risques d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo et d'une explosion des gaz du lac Kivu. Comment s'organisent les opérations de contingence dans cette zone placée sous état de siège? Eddy Issango a joint à Goma le lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur militaire qui dirige les opérations.
Il a été prévu une seule voie d'évacuation, c'était sur Sake. Et au courant de la journée, nous avons pu dégager la voie de Kibumba, puis au nord, ce qui a soulagé un peu la population qui était plus concentrée sur la seule voie à se vider vers Kibumba, qui a désengorgé la voie de Sake. Cette voie qui a été coupée par les laves, que nous avons rétabli la circulation et qui nous a permis d'évacuer la population vers Kibumba.
Combien de personnes avez-vous évacué?
Goma a une population de plus ou moins 1 500 000 et la population concernée par cette zone rouge, ce n'est pas seulement cela. Il y en a qui, ceux qui ont peur, on ne peut pas empêcher à quelqu'un d'avoir peur et de quitter. En tout cas, c'était un bon monde évalué à plus ou moins 600 000 personnes.
Et comment s'est organisé l'accueil? Est-ce que vous aviez le moyen pour les accueillir au lieu où ils sont partis? Où est-ce qu'ils vont dormir? Ont-ils tout ce qu'il faut? L'eau, la sanitation et autres?
Ah oui, dans ce genre de choses, l'eau est difficile, effectivement. Nous avons fait recours à la MONUSCO et les autres ONG qui nous ont accompagnés. Nous avons pu donner de l'eau, vu que le nombre est très élevé, mais le besoin était énorme. Nous faisons avec la politique les moyens que nous disposons. Le gouvernement nous a dépêché une fausse délégation ici. Nous nous sommes organisés, tant soit peu, avec les moyens qui étaient disponibles. Mais devant cette foule, vous serez d'accord avec moi que tout le monde ne serait pas servi, bien sûr, mais de demain, on attendait que les gens cherchent un peu à se grouper pour qu'on fasse une évaluation concrète pour venir en aide à ces déplacés.
L'évacuation a été organisée suite à des alertes de scientifiques de l'Observatoire volcanologique de Goma. Ils sont allés dans le cratère. Qu'ont-ils trouvé maintenant?
Les investigations sont en cours. Les experts sont encore à pied d'œuvre. Dans peut-être les heures à venir, ils sont encore là. Nous n'avons pas encore la suite.
On a parlé des menaces d'explosion des gaz, notamment dans les lacs, mais comment vous préparez-vous à faire face à cela?
Les scientifiques l'ont dit, ce sont les scientifiques qui vont nous déterminer effectivement avec leurs indications. Comment se préparer contre ça, ce sont des choses imprévisibles. Si c'est confirmé, on doit mettre toujours à l'abri la population.
Vous êtes à la tête du Nord Kivu depuis moins d'un mois, dans le cadre de l'état de siège qui a été institué. Comment conciliez-vous l'urgence d'épargner la population du danger du volcan des gaz et l'offensive menée dans le cadre de l'état de siège, justement?
En tant que responsable, devant un tel problème, que dire? Devant une catastrophe, vous aménagez des opérations et faire face aussi à ces catastrophes du moins naturelles pour épargner la population des souffrances.
Où en êtes-vous avec les offensives? Parce que ça peut être une distraction.
Les opérations sont en cours. Nous avons des secteurs dans le Grand Nord et le Petit Nord ici. Les opérations sont en cours.
Le lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur militaire nouvellement nommé à la tête du Nord Kivu.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Dans le cadre de notre série sur le basketball africain, le basketball burkinabé a souffert ces dernières années de plusieurs maux, dont l'absence de compétition, mais surtout des querelles entre les acteurs. Cette situation a fait que la balle au panier, l'un des sports les plus pratiqués, est devenu moribond au fil du temps. L'espoir semble renaître avec la nouvelle fédération mise en place depuis novembre 2020. Notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré.
Le basket burkinabé vit des moments difficiles. Il avait pourtant suscité beaucoup d'espoir dans les années 2010, mais très vite tombé dans la léthargie, alimentée par une crise au niveau des acteurs. Le championnat national, baromètre de la discipline, ne se joue plus depuis quelques années.
La situation du basketball burkinabé ces dernières années est catastrophique.
Sal Bado, candidat malheureux à la dernière élection à la tête de la Fédération Burkinabé de basket.
Nous avons vécu des saisons de non-championnat, des saisons où le championnat n'a pas été effectivement joué, et aussi des problèmes dans la gestion même, que ce soit des hommes et des finances.
La fédération d'alors, dirigée pendant 8 ans par Joachim Baki, était en proie à des difficultés. Du coup, tout était à l'arrêt, au grand désarroi des amoureux de la balle au panier, notamment les pratiquants de la discipline.
Le basket au Burkina, en fait, c'est un problème managérial, c'est un problème de personne, en fait.
Olo Césarien, basketteur qui a très vite raccroché les crampons.
Les dirigeants de nos jours, franchement, ce ne sont pas des personnes, en fait, qui doivent, en fait, diriger, en fait, cette discipline au Burkina. Nous avons de la matière première, tout ce qu'il faut. Juste avant le président Baki, tout allait bien. Au départ, tout le monde a cru à son projet. Il a même qualifié l'équipe, en fait, à la première fois à l'Afro Basket. Mais juste après ça, en fait, il n'y avait plus rien. Les basketteurs n'en demandent pas trop. Ils veulent juste jouer.
Et pour ne rien arranger à la situation, les clubs aussi sont mal organisés. Mahamadou Zungrana Dibane, promoteur de basketball.
Dans nos clubs, le président est le trésorier, le secrétaire général, il est le tout en même temps. Et aussi, nous avons le problème de formation. Les formateurs ne sont pas formés.
C'est la raison pour laquelle, lui, il s'est engagé dans la formation des tout-petits à travers un camp vacances basket et une académie.
Camp vacances basket que nous avons lancé il y a 23 ans, il faut dire que c'était quand même pour amener les enfants à pratiquer le basketball à grande échelle. Nous avons détecté des enfants qui jouent certains jours aujourd'hui aux États-Unis, qui jouent en Europe, et voilà, qui nous avons donné l'amour du basketball à ces enfants.
Aujourd'hui, l'espoir semble renaître avec la nouvelle fédération dirigée par Souleymane Yameogo. Celui-ci veut donner au basket burkinabé ses lettres de noblesse.
Le championnat était lancé. Il reste à le maintenir jusqu'à son terme. Et puis également anticiper sur le championnat prochain. Nous comptons véritablement mettre en place une politique de développement pour notre discipline au cours des 4 années à venir.
Les ambitions sont grandes. Il va falloir aller très vite pour rattraper le temps passé et aussi avoir son mot à dire dans le Conseil des Nations. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Bienvenue à vous, chers auditeurs, VOA Afrique au cœur de la Basketball Africa League. Nous nous associons à la NBA pour vous offrir le meilleur du basket africain. VOA Afrique vous propose un résumé quotidien des matchs dans son journal télévisé. Les rencontres sont diffusées en direct à la radio avec des émissions d'avant et après match. Vous pouvez également suivre tout sur la balle sur notre site web voafrique.com. À eux de jouer, à vous de suivre. Vive le basket africain sur VOA Afrique et nos radios partenaires.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace out. Africa.
I got my peaches out in Georgia, ooh, yeah. I get my food from California, that. I took my chick up to the North, yeah. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you, oh, the way I breathe you in, hey. It's the texture of your skin. I get my from California, that's that. I took my chick up to the North, yeah.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram ont suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.